Mon cœur de vous parler des combats spirituels que nous devons mener chaque jour. Parce que des combats, il y en a. Et ces combats sont spirituels, mes frères et sœurs. L'apôtre Paul est celui qui va dire, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes, il dira. Mes frères et sœurs, Christ est notre chef. Alléluia, et je crois que nous le savons tous, et il est le chef de l'armée de l'Éternel. Et en tant que guerrier de Christ, parce que c'est ce que nous sommes, nous avons un combat spirituel à mener pour la gloire de Dieu, pour son œuvre, mais également pour notre propre vie. Un combat pour la gloire et pour l'œuvre de Dieu dans le sens où, eh bien, ce qu'il a dit à l'apôtre Paul dans les Actes des Apôtres, chapitre 26, et c'est pas notre verset de référence, je vais juste le citer, eh bien, nous concerne pleinement. Dieu a dit, je t'ai choisi du milieu de ce peuple et des non-juifs vers qui je t'envoie. Il dit, je t'envoie leur ouvrir les yeux, mais pour une bonne raison. Il dit, pour qu'ils puissent passer des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et une part d'héritage avec les saints. Telle était la mission du combat que Paul devait mener durant sa vie. Mais mes frères et sœurs, nous menons aussi un combat spirituel dans notre vie personnelle. Parce que, il faut bien l'avouer, après avoir été régénéré par le Saint-Esprit, eh bien, le diable et ses démons vont essayer de faire la guerre à notre âme. Il veut éviter que nous puissions jouir éternellement du salut que Dieu promet à tous ceux qui croient en Jésus-Christ, à tous ceux qui marchent selon sa parole et selon ses commandements. Alors il essaiera de vous empêcher de vivre cela. À cause, vous savez, de ces situations un petit peu compliquées que nous vivons en ce moment. Non pas la guerre, mais la situation sanitaire. Aujourd'hui, on est encore là, hein, avec des masques. Et des fois, on se dit, est-ce qu'on a le Covid, est-ce qu'on n'a pas le Covid? Le Covid a beaucoup marqué le monde, hein. Une si petite maladie. Et je me rappelle, je sais pas si vous vous en rappelez, notre président de la République avait dit à l'époque, nous sommes en guerre. Et il a dit, nous sommes en guerre et nous sommes face à un ennemi invisible. Vous vous rappelez de cette phrase? Eh bien, moi, elle m'a marqué. Ce qu'il a dit est une grande vérité. Le problème, c'est que le monde, il ne porte pas ses regards, eh bien, sur la chose invisible qui est réelle. Eux, ils regardent la maladie. Mais ils en oublient le véritable ennemi invisible. Ils en oublient celui qui est là pour nous faire tomber, pour nous empêcher de vivre. Un ennemi qui influence le cœur des hommes et des femmes pour les diriger vers la mort éternelle. Un ennemi qui, eh bien, est profondément ancré dans toutes nos cultures. Un ennemi qui est attaché à la société actuelle. Un ennemi invisible qui influence les activités politiques, économiques et sociales. Un ennemi invisible qui influence les gouvernements et les nations de la terre entière. Oui, nous sommes en guerre contre un ennemi invisible, mais cet ennemi invisible, mes frères et sœurs, n'est pas la maladie. Cet ennemi invisible, celui que nous devons redouter, eh bien, ce sont ces puissances spirituelles néfastes à nos vies. C'est le diable et ses démons. Eux, ils sont là, invisibles à l'œil humain, et pourtant, ils sont toujours en action. Nous ne devons pas oublier que nous sommes entourés de forces invisibles. Et elles s'opposent d'une manière violente au royaume de Dieu. Elles s'opposent d'une manière violente à notre mission à nous sur la terre. Alors oui, oui, le monde a peur de la maladie. Oui, c'est vrai, les gens ont encore peur du Covid, mais la vérité c'est que le monde entier ferait mieux de trembler devant l'ennemi de nos âmes. Parce que lui, à la différence du Covid, il est si puissant qu'aucun homme, qu'aucune nation ne pourrait le vaincre sans avoir Jésus-Christ à ses côtés. Écoutez, nous vivons dans un monde où les esprits mauvais sont très présents. Et les esprits, ceux-là, ils sont ni inoffensifs, ni tout-puissants, c'est sûr. Mais ils sont liés au diable et nous ne pouvons leur résister qu'à une seule condition. C'est que nous soyons pleinement en Christ et que nous soyons équipés de l'armure de Dieu. D'où mon texte de référence pour ce matin. Éphésiens, chapitre 6, verset 10. L'apôtre Paul écrit de la part de Dieu. Éphésiens chapitre 6, verset 10, et on va lire jusqu'au verset 17. Il est écrit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Amen. Dans ce texte, l'apôtre Paul commence par nous demander de puiser notre force dans le Seigneur Jésus et il dit dans sa grande puissance. Ça, c'est un détail important, très important. Il savait parfaitement, l'apôtre, que c'était pour nous le seul moyen de pouvoir recevoir l'autorité et la force nécessaires pour ne jamais défaillir à la bataille spirituelle que nous devons mener ici-bas, aux batailles spirituelles. Et cette pensée, elle était vraiment bien ancrée dans le cœur de l'apôtre Paul. Et elle me rappelle une autre pensée. Celle qu'il y avait dans le cœur du roi David, dans le psaume 28. David, il va dire, à partir du verset 7, il dit, « L'Éternel est ma force et mon bouclier. » Il dit, « En lui, mon cœur se confie et je suis secouru. » Il rajoute, « J'ai de l'allégresse dans le cœur et je le loue par mes chants. L'Éternel est la force de son peuple. Il est le rocher des délivrances de son oint. » En réalité, mes frères et sœurs, David, en écrivant cela, était pleinement conscient de devoir puiser sa force en l'Éternel s'il voulait être victorieux de toutes les situations qu'il aurait dû traverser durant sa vie. Et l'histoire nous prouve d'ailleurs qu'il l'avait vu de manière très juste, tout comme Paul. Seulement, eh bien, qu'en est-il de nous ce matin ? Notre cœur exprime-t-il à Dieu ce que le cœur de David et de Paul exprime aussi, et de bien d'autres ? Et je ne parle pas simplement d'une expression lors des moments de prière, vous savez, lorsqu'on est ensemble et réunis, simplement le dire avec la bouche, non. Je parle de quelque chose qui sortirait vraiment de notre cœur. Une véritable confiance en Dieu, tout comme eh bien, l'apôtre ou les apôtres et surtout le roi David eh bien, l'avaient. Je parle d'une expression qui serait liée à notre témoignage quotidien. Un témoignage qui démontre sans parler ce qu'il y a véritablement au fond de notre cœur. Parce que c'est ça le témoignage du chrétien. La réalité, mes frères et sœurs, c'est que le chrétien n'est pas toujours obligé de parler. Sa manière de vivre parle d'elle-même. Et souvent, nous avons tendance à l'oublier. On s'en rappelle lorsqu'on est à l'église, pas de problème. Mais lorsqu'on sort de l'église, mais parfois on oublie. On oublie que nous sommes des représentants, des ambassadeurs de Christ. On oublie que si nous voulons que Christ puisse régner dans notre vie, il faut lui laisser toute la place. Au travail, à la maison, dans la voiture, parfois compliqué, surtout quand on est proche de Marseille. Mais pour autant, mes frères et sœurs, Dieu veut que nous puissions penser à cela et nous rappeler de l'importance qu'il y a d'avoir un témoignage qui soit propre à l'image de notre Seigneur Jésus. Écoutez, il n'y a qu'en Dieu seul que nous pouvons puiser notre force dans tous les domaines de notre vie. Que ce soit dans le domaine physique, mes frères et sœurs, ou même dans le domaine spirituel. Les deux domaines, eh bien, font que seul Dieu peut nous donner ce dont nous avons besoin, d'ailleurs. Eh bien, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 40, verset 29, il dit, « Il donne la force à celui qui est fatigué, n'est-ce pas ? Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Est-ce que nous y croyons ? Alléluia ! Les adolescents se fatiguent et se lassent. Pourtant, ils sont vigoureux, les adolescents. Il dit, et les jeunes hommes chancellent. Mais, quel que soit ton âge, je paraphrase là, c'est pas écrit quel que soit ton âge, hein, je rajoute. Il dit, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et eux, ils ne se fatiguent point. Quelle merveilleuse promesse faite par Dieu à chacun de ses enfants, à chacun de nous ce matin. Alors oui, même si par moments le combat spirituel que nous devons mener nous semble difficile, n'oublions pas que Dieu et Dieu seul est celui qui nous donne la force nécessaire pour arriver à vaincre ce problème-là, à vaincre cette situation-là, même si elle nous épuise. Eh bien, demandons la force à Dieu et lui, il nous permettra de la vaincre. J'ai toujours aimé, et je l'ai déjà cité à l'église Saint-Victorin au moins deux fois, cette expression qu'Ésaïe utilise. Ils prennent leur envol comme les aigles. Mais c'est incroyable. Moi, j'aime beaucoup cette expression parce que l'aigle, mes frères et sœurs, c'est un oiseau puissant. Un oiseau qui est courageux, un oiseau qui est majestueux. Et cet oiseau, il a une particularité. Il passe la plupart de son temps dans le ciel. L'aigle, il plane et il vit dans le ciel. Et le chrétien, lui, qui est revêtu de la force de Christ, eh bien, il ressemble à cet aigle puissant, à cet aigle plein de force, de courage et d'assurance. Il ressemble, eh bien, à cet aigle-là, parce que le chrétien, en Christ, il vit dans la lumière du ciel, il vit au-dessus de tout danger. C'est ça la réalité. Oui, nous sommes sur terre, mais nous sommes déjà dans les lieux célestes en Christ. C'est ça qu'il faut que nous comprenions, mes frères et sœurs. Bien que nous soyons là, en réalité, nous sommes assis avec Christ, dans les lieux célestes. Vous savez, il est tout à fait normal pour un homme de se fatiguer en marchant. Il est tout à fait normal de se fatiguer en courant dans ce monde, parce que ce monde, il faut le dire, il est épuisant. Et je crois que plus les temps avancent, plus il nous épuise. Et parfois on se dit, c'est bon, là on ne peut pas aller plus loin, mais on va toujours plus loin. C'est incroyable ce qui se passe aujourd'hui. Mais pourquoi? Parce que le monde entier est sous la puissance du mal. Et parce que l'ennemi de nos âmes, et là, il nous oppresse de toutes parts. Seulement, à travers ce texte, le prophète, ou surtout Dieu, parle à travers le prophète pour nous rappeler que celui qui puise sa force en Jésus, eh bien, il se verra constamment renouvelé. Et il pourra continuer à marcher même lorsque ça semble impossible. C'est ça qui caractérise les chrétiens. Vous n'êtes pas sans savoir que les premiers chrétiens ne se sont pas appelés chrétiens. Ils marchaient et ils essayaient de marcher comme Christ le faisait. C'est tout ce qu'ils faisaient, eux. Leur témoignage rappelait le Christ. Alors, les gens qui les entouraient, les païens, ont dit, oh, eux, c'est des chrétiens. Le mot chrétien a été inventé par des païens. C'est eux qui ont jugé. Et en regardant les gens marcher, en disant, eux, c'est des petits Christ. Mais c'est pas les chrétiens qui sont allés en disant, je suis chrétien, je suis chrétien. Vous savez, ça sert à rien de dire aux gens que nous sommes chrétiens si nous ne le vivons pas réellement. Vivons-le réellement, marchons à l'image de Jésus, et alors les gens verront qui nous sommes. Ne vous inquiétez pas pour ça. Et notre témoignage parle énormément. Notre texte de référence, il continuait en disant « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Un soldat, mes frères et sœurs, n'est équipé pour la guerre qu'à partir du moment où il a revêtu la totalité de son armure. Et même encore aujourd'hui, dans l'armée, eh bien, il est indispensable qu'un soldat parte en mission avec tout son équipement. Pour ceux qui ont fait l'armée, nous on est un peu plus jeunes, mais on n'a pas eu la chance de le faire, ou pas la chance, je sais pas. Le service militaire, nous c'était un jour. Bon, ceux qui ont fait le service militaire savent qu'on leur apprend à préparer leur bardage, parce que en cas de problème, tout est prêt. C'est comme ça qu'ils le voient. Il faut que l'équipement soit prêt, propre, organisé, sécurisé. Ça c'est la réalité du terrain. Et ça se passe encore aujourd'hui. Tout le monde sait que il est quand même beaucoup plus difficile, voire impossible, de combattre ou de se défendre contre quelque chose ou contre quelqu'un sans avoir un équipement qui soit parfaitement adapté à ce combat. Enfin, mettez aujourd'hui dans une guerre, avec des gens qui ont des tanks et des armes, quelqu'un qui viendrait avec un bâton. Il ne fera pas long feu. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est le schéma du monde. Mais ce schéma du monde, il s'applique d'une manière aussi spirituelle à nous. Il faut que nous soyons équipés. C'est exactement ce que l'apôtre Paul explique. Eh bien, il parle du fait qu'un soldat de l'armée de Dieu ne peut pas tenir ferme face à l'ennemi de nos âmes s'il ne porte pas sur lui l'armure céleste au complet. Pas en partie. L'armure céleste au complet. Vous savez, il y a des chrétiens aujourd'hui qui ne veulent pas s'équiper de certaines parties de l'armure parce que elles leur semblent trop lourdes à porter. Seigneur, ça c'est trop compliqué. Alors moi je veux bien ça, mais alors pas ça, Seigneur. Et c'est peut-être la raison pour laquelle aujourd'hui il y a de plus en plus de dérives dans certaines églises, dans nos mouvements. Nous sommes censés être, eh bien, la renaissance de la vérité de l'évangile prêché au monde entier, les évangéliques. Mais que sommes-nous en train de devenir en réalité? Qu'est-ce que le mouvement est en train de devenir? Qu'est-ce que les chrétiens qui sont dans le mouvement deviennent? Eh bien, peut-être parce qu'il nous manque un équipement et nous avons de plus en plus de mal à lutter. De nos jours, dès que quelque chose demande trop de sacrifices dans notre vie charnelle, beaucoup de chrétiens choisissent de l'ignorer, de mettre ça de côté, ou pire, de transformer cela en quelque chose de plus léger. Mais je vais prendre une autre image. Si le casque, le bouclier ou l'épée sont faites en acier, on parle d'un temps où ils avaient tout cela qui était fait en acier, ce n'est certainement pas pour les remplacer par du bois ou par du plastique. Pourtant, le plastique est plus léger à porter. Aujourd'hui, avec les techniques qu'on fait, l'armure en plastique, elle serait, on se croirait dans une vraie. Mais ce n'est pas une vraie. C'est du plastique, c'est plus léger, ça ressemble, mais il n'y a pas la puissance, la force, la capacité de pouvoir supporter qu'à la véritable armure. Oui, si nous changeons certains commandements de Dieu, si nous nous effaçons, si nous posons, si nous voulons modifier certaines parties de l'équipement que Dieu nous laisse pour lutter, alors il sera plus léger pour notre vie, bien sûr. Il sera plus léger à porter. Mais je dirais même que les gens vous verront dans l'église avec une certaine apparence qui montrera peut-être que vous avez en apparence une armure. Mais le problème, c'est que, eh bien, cette armure-là, elle sera aussi beaucoup plus fragile et elle sera devenue inefficace lorsque vous rentrerez en bataille contre l'ennemi de vos âmes. Agir de cette façon, mes frères et sœurs, ne fait pas de nous des guerriers de Dieu équipés pour le combat. Mais cela fait de nous des hommes faibles qui allons rapidement perdre pied, perdre même la vie et fuir lors des combats spirituels à venir. Et je vous assure que beaucoup sont ceux qui ont renié Jésus-Christ parce qu'ils n'avaient pas revêti l'armure de Dieu dans sa totalité et parce que leur foi en lui n'était pas suffisamment affermie. Ce qui me fait penser un petit peu, je ne sais pas vous, mais à ce passage de l'évangile de Jean, chapitre 12, verset 42, qui dit « Parmi les chefs religieux, juifs, plusieurs crurent en Jésus. » C'est incroyable. Mais regardez ce qu'il rajoute. « Et ils n'en faisaient pas l'aveu dans la crainte d'être exclus de la synagogue, car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. » Ces gens-là ont vu Jésus. Ils l'ont entendu parler. Les paroles de Jésus ont touché leur cœur. En réalité, ils montrent en tout cas dans ce verset qu'ils ont été touchés par l'amour de Dieu, par la vérité que Jésus proclamait. Ils se sont mis à croire en Jésus. Et pourtant, par peur de la persécution ou par peur du rejet des autres, ils ont préféré mentir et renier ce qu'ils avaient reçu. Certains vont même jusqu'à changer le message de la parole de Dieu au nom d'une meilleure acceptation par les gens. En tout cas, c'est ce qu'ils veulent dire. Mais en le disant comme ça, ce sera plus facile à accepter. Mais on ne change pas la parole de Dieu. On ne transforme pas la parole de Dieu. Ni un mot, ni même une lettre, dira, eh bien, le Seigneur. Alors, je le proclame une nouvelle fois. La parole de Dieu, mes frères et sœurs, elle n'a qu'un seul sens. Et ce sens-là, c'est le Saint-Esprit qui nous le révèle. Et sans cette armure divine, eh bien, il nous sera très difficile de ne pas faire les mêmes erreurs que certains ont fait, surtout le jour où nous vivrons la persécution. Parce que parfois, on est là, dans notre chaise, tout va bien dans notre vie, et on a l'impression d'être un petit peu là, voilà, tranquille. Et c'est là où on a la fâcheuse tendance à se relâcher. Mes frères et sœurs, Paul était constamment dans un combat spirituel. C'est peut-être pour ça qu'il n'a jamais relâché. Mais je remarque que lorsque nous, on est dans une espèce de paix comme ça, merci Seigneur, on a tendance à se mettre au fond de notre canapé, on change nos habitudes et on veille de moins en moins. On persévère dans la méditation de la parole et dans la prière de moins en moins. Et on ne se rend même pas compte que tout cela est en train de nous affaiblir. Et puis le jour où une épreuve arrive, on est tout tremblant devant l'épreuve. Et on ne se rappelle même plus parfois que Dieu est celui qui règne, qu'il est souverain et qu'il est capable de transformer une situation de défaite en une grande victoire. Vous savez, nous n'avons jamais enseigné que le combat sera facile. Par contre, nous avons toujours rappelé que face à la difficulté, ou même face à la mort, Dieu sera toujours à nos côtés pour donner à chacun de nous la force qui lui manque afin qu'il soit victorieux. Victorieux, mais victorieux sur la tentation. Victorieux sur l'épreuve, victorieux sur la persécution, qu'elle soit physique, parce que certains la vivent, même si aujourd'hui ce n'est pas le cas pour nous. Mental, ça c'est un peu plus le cas pour nous aujourd'hui, ou spirituel. Et nous ferions mieux d'y être préparés, mes frères et sœurs, parce que je trouve que les temps se font de plus en plus difficiles. Et je pense que nous voyons aujourd'hui que même des pays libres, comme celui qu'est la France, commencent à se fermer complètement à l'évangile et à la vérité qu'ils proclament. Et les temps deviendront de plus en plus difficiles. Et nous, nous devons nous préparer à cela, afin que, non pas par nos propres forces, mais par la puissance de Dieu, nous puissions résister et avancer lorsque ces temps-là arriveront. Vous savez, je regarde beaucoup, on voit parfois les survivalistes, ils se préparent à l'apocalypse. Mais vous pouvez faire autant de stocks de nourriture que vous voulez chez vous. Vous pouvez amasser des armes pour la chasse. Vous pouvez essayer de créer un bunker en cas d'attaque nucléaire. Jésus viendra chercher son église et puis à un moment donné, il y aura la tribulation, la grande tribulation. Il arrivera à un moment donné où Jésus reviendra, il règnera pour 1000 ans. Enfin, la parole de Dieu, tout cela est expliqué. Et les réserves de nourriture que vous ferez chez vous ne vous sauvera pas de ce que Dieu a annoncé. Mais ce qui vous sauvera, c'est d'être préparé spirituellement. Ce qui vous sauvera, c'est d'être proche du Dieu Saint, Saint, Saint. C'est ça qui vous sauvera. De marcher en conformité avec l'Évangile, la parole de Dieu. De marcher dans la lumière de Christ. Ce qu'il y a sur la terre et tout ce que possède la terre ne pourra jamais sauver quelqu'un. Ça a été rappelé dans un don. Ce n'est pas sur terre que nous cherchons notre salut. Notre salut, il est en Christ. Notre force, elle est en Christ. Et tous ces moments, parfois, que nous vivons difficiles, ne peuvent être supportés qu'en Christ, encore une fois. C'est ça que l'apôtre nous enseigne, et d'ailleurs, sa vie est un reflet de cet enseignement. L'apôtre Paul ne fait pas que dire des mots, il les a vécus, tout comme Jésus n'est pas venu simplement pour parler aux gens. Il a vécu, lui le premier, tout ce qu'il a enseigné. Excusez-moi, mais quand il disait « il faut pardonner et non pas, c'est pas œil pour œil, dent pour dent », c'était le premier à pardonner, hein. Même lorsqu'il était sur la croix. C'était difficile de voir les gens encore se moquer de lui là en bas, de venir le provoquer. « Si tu es vraiment Dieu, descends !» Et pourtant, la parole de Christ a été « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Beaucoup d'amour dans la bouche de Jésus et dans son cœur surtout, parce que l'amour dans la bouche des gens, des fois on en voit, hein. Mais ce qui compte, c'est l'amour dans le cœur. Vous savez, nous devons faire attention à cela et être prêts. Être prêts. Parce que viendra un temps où c'est notre manière de vivre avec Dieu qui nous permettra justement de vivre cette éternité à ses côtés. Dieu donne la force à celui qui est fatigué, dit le prophète Ésaïe. Et l'apôtre Paul, lui, il dit quelque chose d'incroyable parce qu'il en a vécu, hein. Mais il dit toujours, je puis tout par celui qui me fortifie. Paul a compris une chose, c'est que ce soit de manière physique ou spirituelle, ce n'est qu'en Christ qu'il pourra avancer, ce n'est qu'en Christ qu'il pourra faire, ce n'est qu'avec Christ à ses côtés qu'il pourra proclamer et accomplir la mission que Dieu lui a donnée. Partout où il allait, Paul chassait les ténèbres pour les remplacer par la lumière éblouissante de Christ. Et tout ce qu'il faisait, il le faisait avec l'armure de Dieu au complet sur lui. C'était un véritable guerrier de l'Évangile. Dieu ne nous demande pas de prendre des armes pour aller tuer des hommes. Ça, c'est faux, c'est pas Dieu, ça. Mais Dieu nous demande de prendre des armes spirituelles pour lutter contre des puissances spirituelles. Ça, c'est une grande réalité. Oui, nous sommes des guerriers de l'armée de Jésus. Mais c'est spirituel la guerre que nous sommes en train de mener. Non pas contre la chair et le sang, mais nous luttons contre d'autres puissances. Nous savons tous que l'apôtre Paul avait pour habitude de prendre des exemples concrets de la vie de tous les jours lorsqu'il apportait des messages et il voulait faire comprendre aux gens ce que Dieu attendait d'eux à travers des choses qu'ils pouvaient voir. Et dans notre texte de référence, nous voyons qu'il prend exemple sur une armée, l'armée romaine. Mais ça faisait longtemps que l'apôtre Paul était prisonnier, il était à Rome. Et selon l'histoire, il était sous la responsabilité de la garde prétorienne. La garde prétorienne, c'est pas n'importe quelle garde. C'était une unité d'élite de l'armée romaine. C'était le top du top de l'armée romaine. Et Paul, lui, lorsqu'il les regardait, il voyait en eux le sérieux et l'ordre qui régnait au milieu d'eux. Il y avait de l'ordre ici, il y avait du sérieux, il y avait de l'entraînement, il y avait de la vigilance dans ces gens-là. Mes frères et sœurs, nous devons nous aussi, en tant qu'armée du Seigneur Jésus, avoir du sérieux dans notre manière de marcher. Nous devons être ordonnés dans notre manière de vivre et de penser. Dans le domaine spirituel, bien sûr, parce que, je le dis à nouveau, notre bataille ne consiste pas à s'opposer à des ennemis humains, parce que les hommes sont très limités, non, elle consiste à lutter contre des puissances qui possèdent mille manières de déstabiliser nos âmes, c'est ça la réalité, des puissances qui n'auront aucun mal à nous détourner du chemin de la vérité. Et oui, si nous ne sommes pas suffisamment prudents dans le Seigneur, ils y arriveront très facilement. Et ne disons jamais, mais pas moi. Parce que si vous saviez le nombre de personnes, et même de pasteurs, qui un jour ont pu dire, moi, jamais. L'apôtre Paul dira, soyez vigilants. Il dit, et même Jésus le disait, il faut veiller, prier sans cesse, afin de ne pas tomber en tentation, mais de ne pas tomber. Que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Mes frères et sœurs, l'apôtre Pierre, lui, il va dire dans sa première épître, chapitre 5, verset 8, « Ne vous laissez pas distraire. » Écoutez bien, c'est important, parce que le monde aujourd'hui, il veut nous distraire. C'est comme ça. Vous le voyez, en tout cas, je crois que vous le voyez. Comment ? Écoutez, on ne va pas aller chercher bien loin. La télé, les réseaux sociaux, les séries. En fait, on rentre dans un cercle comme ça, et ce cercle-là, il nous prend notre temps. Je disais la dernière fois aux jeunes à l'église, prenez votre téléphone, parce que des fois les gens disent, oui, mais non, mais là il abuse. Oui, il abuse. Prenez votre téléphone et vous allez dans les réglages de votre appareil. Tout le monde a un smartphone aujourd'hui. Et vous commencez à contrôler le nombre de temps que vous avez passé sur vos applications téléphoniques. Et vous allez voir un petit peu le temps que vous avez perdu à faire beaucoup d'autres choses que de passer du temps avec Dieu. Parce que les réseaux sociaux, on arrive à avoir 4, 5 heures, 6 heures pour certains par jour. Mais par contre, quand on a l'application Bible, parce que tout le monde l'a aujourd'hui, hein, ça ne dépasse pas le quart d'heure. Et ça, je pense qu'il y a un déséquilibre. Et l'ennemi de nos âmes, il est là pour nous séduire, et il en met des manières. C'est mon métier, moi, ça. Et je vais vous dire une chose, les développements de nos jours, ils sont faits pour s'accaparer mentalement de nous et de nous permettre de devenir dépendants à ceux qu'ils veulent créer. C'est comme ça. Et je vous assure que c'est vrai parce que c'est mon métier. Donc, c'est une réalité. Moi, je la connais, les réseaux sociaux, j'en ai pas. Chacun fait ce qu'il veut. Mais parce que je veux pas, je sais que je tomberai là-dedans moi aussi, comme tout le monde. Il vaut mieux prendre plus de temps à lire et à prier. Et Pierre, lui, il va dire, ne vous laissez pas distraire. Ça veut pas dire que vous n'avez pas le droit d'aller voir vos parents, d'aller en vacances, hein. Ça veut dire quoi que vous fassiez, eh bien, soyez équilibrés. Il dit, ne vous laissez pas distraire, soyez vigilants, il insiste. Il dit, parce que votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. Ça, c'est une grande réalité. Le diable rôde autour de nous et il cherche quelqu'un à dévorer. Et je suis désolé, mais moi, j'aime bien dire aussi, il cherche quelqu'un qui se laissera dévorer. Parce que si nous avons Dieu dans notre vie et si nous l'avons puissamment, le diable ne peut rien tenter. Ou il va tenter, mais il ne nous atteindra pas. Mais lorsqu'on s'éloigne un petit peu de Dieu, lorsqu'on est plus vigilant, lorsqu'on s'éloigne de la méditation de la parole de Dieu, lorsqu'on s'éloigne des temps de prière et de communion, alors là, nous devenons une cible de plus en plus facile, jour après jour, pour l'ennemi de nos âmes. Et regardez ce que Dieu fait, hein. Dieu fait bien les choses, hein. Il a créé la nature. Hein. Quand les lions chassent, ils ne vont pas prendre au milieu du troupeau. Hein. Ils vont prendre celui qui est faible à la traîne derrière. Et ça, c'est la grande réalité. Ne nous écartons pas de la présence de Dieu, de la communion profonde avec Dieu. Ne nous en écartons pas, parce que c'est un grand danger que nous mettons sur notre propre vie. Et encore une fois, ne pensez pas que vous, le danger, vous y arriverez mieux que les autres. Hein. Si Paul, si Pierre, si Jésus, si toutes ces personnes incroyables, pas plus que Jésus bien sûr, mais quand même les apôtres, c'est pas n'importe qui. Si eux insistent sur le fait que nous devons être vigilants parce qu'ils l'étaient eux-mêmes, c'est qu'il y a une grande raison, mes frères et sœurs. Et je crois que parfois, eh bien, ces choses-là, on a du mal, on les oublie avec le temps. Mais non, il dit ne vous laissez pas distraire. Vous savez, le diable et ses démons, ils cherchent à dépraver ce qu'il y a de Dieu à l'intérieur de notre cœur. C'est notre âme qu'ils cherchent à atteindre. Et nous devons en être bien conscients ce matin. Ils savent une chose, eux, c'est que s'ils arrivent à atteindre notre âme, alors ils pourront nous dépouiller de toutes les richesses célestes que Dieu a placées à l'intérieur, et ce depuis notre conversion, depuis le moment où nous sommes nés de nouveau, y compris vous enlever l'espérance de la vie éternelle. Et Jésus-Christ, eh bien, il nous a avertis en ce sens. Matthieu chapitre 10, verset 28, regardez ce qu'il dit. Il dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. En d'autres termes, il est en train de dire, mes enfants, on est en train, ou vous êtes en train plutôt de vous affoler parce que vous entendez des guerres, des bruits de guerre. Il y a des gens qui rentrent avec des couteaux dans des écoles pour tuer. Oui, c'est vrai, il y a des choses terribles. Mais c'est pas eux qu'il faut craindre. C'est pas celui qui viendrait vers moi et qui viendrait pour me tuer qu'il faut que je craigne. Ce sont d'autres puissances. Parce que celui qui vient me tuer, si je suis proche de Dieu, eh bien je partirai et je sais où je vais, au paradis. Mais si je suis loin de Dieu, si je me suis laissé dépouiller de ce que Dieu avait mis en moi, alors à ce moment-là, c'est plus au paradis que je vais. Et c'est ça qu'il faut craindre. Nous devons être vigilants, parce que notre but à nous, c'est de conserver dans notre vie ce salut merveilleux par grâce que nous avons reçu. Travaillez à votre salut, dit l'apôtre Paul. Nous devons faire attention à cela et le choyer. Souvent les chrétiens prennent le salut, j'ai l'impression que c'est un beau bijou. Parce que c'est un bijou d'une valeur inestimable. Et on le prend, on le met sur une commode, comme pour le représenter, pour dire, regarde, oh là là, il est beau ce bijou. Mais avec le temps, on oublie de venir le voir et de le nettoyer. Vous savez ce qui se passe? Ça prend la poussière. Ne laissons pas, eh bien, cette poussière, je parle de manière spirituelle, c'est-à-dire les choses mauvaises, venir salir ce salut que nous avons acquis en Christ, parce qu'il a donné sa vie pour nous. Au contraire, soyons vigilants. Et il dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Il dit, mais craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. C'est quand même Jésus qui parle, c'est pas Franck. Et ce que je suis en train de vous dire, c'est parce que Jésus l'a dit lui-même. Ne craignons pas les hommes, aussi grands peuvent-ils paraître à nos yeux. David et Goliath, il était grand Goliath. Mais David, il craignait pas Goliath. Non, craignons plutôt, eh bien, ces puissances spirituelles. C'est pour ça que dans notre texte de référence, l'apôtre Paul, il continue en disant au verset 13, « C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. » Et excusez-moi, on a dit qu'on ne devait enlever ou rajouter aucun mot à la parole de Dieu, n'est-ce pas? Eh bien, il est quand même écrit, « C'est pourquoi prenez toutes les armes. » Pas quelques armes, mais toutes les armes de Dieu. Et il dit pourquoi? Afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Alléluia! Il dit, tenez donc ferme. Et il rappelle les armes de Dieu. Et, excusez-moi, vous avez fait le compte, le décompte de ces armes-là? Eh bien, il y a 6 pièces. Mais quand vous regardez un petit peu, il y a 5 de ces 6 pièces qui servent à notre protection contre tout ce que le diable peut tenter contre nous. Il nous a équipés, le Seigneur. Hein. Et ensuite, il y a 1 pièce, la 6e, qui, elle, est une arme qui nous rend capable d'attaquer et de vaincre. Parce que par l'épée de la parole, nous chassons les démons. Mes frères et sœurs, c'est important de s'en rappeler. Alors, le temps me manquerait pour énumérer toutes les armes. Ce serait bien de le faire, mais voilà. Mais malgré tout, méditez cela. Rappelez-vous de ce que sont les armes de Dieu. Rappelez-vous de ce que doit être la ceinture de vérité dans votre vie. C'est important, mes frères et sœurs. Nous marchons dans la vérité, n'est-ce pas ? C'est la vérité qui nous a affranchis, non ? Christ lui-même est la vérité. Et nous devons porter Christ dans notre vie. Rappelez-vous de ces armes-là, mes frères et sœurs, c'est important. Nous devons nous rappeler. Parce que cet équipement-là doit être forcément présent chaque jour dans notre vie, mes frères et sœurs. Alors, si ce n'est pas le cas, parce que souvent, je remarque qu'on commence par les sandales, hein, les sandales du zèle. C'est, quand on rentre et qu'on a passé une journée grosse à marcher, hein, souvent, ça vous est tous arrivé de partir en vacances et on marche longtemps. La première chose qu'on fait quand on rentre, qu'est-ce qu'on fait ? On enlève les chaussures. Hein. C'est fatigant. Ne faisons pas la même erreur spirituellement. Les sandales du zèle, elles ne s'enlèvent pas, même si ça fait longtemps que nous marchons. Et je suis désolé, mais j'ai vu des personnes qui étaient et qui avaient une longue marche avec Dieu et qui, à un moment donné, eh bien, se sont assis, fatigués, et ont enlevé ces sandales du zèle. Ils ont fini par devenir religieux et ensuite ils ont fini par se perdre. Mes frères et sœurs, soyons vigilants. Ce n'est pas moi qui le dis, mais la parole de Dieu. Et la première des choses que nous ne devons pas enlever, c'est le zèle. Le zèle pour le Seigneur, le zèle pour passer du temps avec lui, le zèle pour méditer la parole de Dieu, le zèle pour prier. Ce zèle-là, gardons-le dans notre vie parce que je trouve que la première chose qui disparaît avec notre premier amour, c'est le zèle. Rappelez-vous, mes frères et sœurs, un petit retour en arrière. Lorsque vous avez rencontré le Seigneur, lorsque vous avez, le jour où vous avez su que Jésus était votre Sauveur et votre Seigneur, ce jour-là et les jours qui ont suivi, comment marchiez-vous avec Dieu ? Dans quel état était votre vie ? Ne passiez-vous pas plus de temps à lire et à prier qu'à faire autre chose ? Ça, c'était le premier amour. Dans l'Apocalypse, il dit, souvenez-vous de votre premier amour. Parce qu'il y a un problème lorsqu'on perd ce premier amour-là. Dieu ne veut pas. En fait, ce premier amour, on l'appelle premier amour, mais la réalité, c'est que c'est un amour permanent que nous devrions avoir tout au long de notre vie pour Dieu. Oui, la marche est difficile, mais oui, mes frères et sœurs, c'est pour ça qu'on fait cette notion de premier amour. Mais on aime encore Dieu, mais des fois, on est fatigué. Eh bien, Dieu dit, c'est en moi que tu retrouveras la force de pouvoir avancer. Alors, ce matin, eh bien, si c'est le cas, en Dieu, en Christ, on va lui demander. Et on lui dit, Seigneur, redonne-moi la puissance qui est tienne. Redonne-moi la force d'avancer. Aide-moi à rechausser les sandales du zèle. Aide-moi à remettre ce casque du salut ou ce bouclier de la foi. Qu'il est important, le bouclier de la foi. L'ennemi, il envoie des flèches enflammées. Mais nous devons faire attention. Parce que sans le bouclier, qu'est-ce que c'est qui nous protège ? La foi est là pour ça. Bien sûr qu'avec la foi, vous déplacez des montagnes. Mais la foi est aussi une protection pour votre vie. Par la foi en Jésus-Christ, vous savez qu'il ne peut pas vous atteindre, le diable. Alors, rien ne vous fait peur et rien ne vous gêne. Mes frères et sœurs, cette armure au complet est importante. Alors, si nous en avons laissé quelques pièces, si pour un temps nous nous sommes assis, si nous avons pris, eh bien, quelque chose qui était pas un peu lourd et nous l'avons mis à côté en disant, je le reprendrai, mais là, il faut que je me repose un peu. Il est le temps ce matin de dire, Seigneur, Seigneur, redonne-moi la force de pouvoir tout prendre à nouveau. Donne-moi la force, Seigneur, de pouvoir rajeunir comme cet aigle, de retrouver mon premier amour et de me mettre à faire ce que je faisais au début de ma conversion, de t'aimer comme tu le mérites tout simplement, Seigneur, parce que tu mérites un amour inconditionnel de notre part. Et souvent, ce n'est pas le cas. Aide-moi, Seigneur. Et vous allez voir que Dieu va vous bénir. Dieu va nous bénir. Et nous allons pouvoir avancer à nouveau. Et même si les temps deviendront de plus en plus difficiles, eh bien, nous saurons une chose. C'est que nous avons déjà la victoire en Christ. Oui, Christ est victorieux. Il a déjà vaincu. Et c'est en lui que nous devenons participants de ses victoires, mes frères et sœurs. Alors restons en Christ, afin que toutes les victoires de Christ puissent découler dans notre vie. C'est ça qui est important. C'est pas pour rien qu'ils disent « en Jésus » et pas « à côté de Jésus ». Ça, c'est le disciple. On remercie le Seigneur, mes frères et sœurs.